Les podcasts de l'Institut de France.
Petite histoire de science. Avec Étienne Gis. Le podcast de l'Académie des sciences.
La Lune a toujours été un objet étrange. Étrange parce qu'elle est familière, nous la voyons presque chaque nuit. Les mêmes taches sombres, les mêmes phases, le même visage, et pourtant, pendant des millénaires, personne n'a jamais vu l'autre côté. Je me souviens très bien, j'étais un très très jeune enfant, du moment où apparurent les premières photographies de la face cachée de la Lune. C'était en 1959. La sonde soviétique Luna 3 venait d'envoyer des images extraordinairement floues, selon nos critères actuels, mais bouleversantes. Les journaux du monde entier publièrent ces taches grisâtres difficile à interpréter. Les radios, les télévisions commentaient l'événement avec excitation. Il faut se rappeler que nous sommes alors au début de l'ère spatiale. Sputnik 1 n'avait été lancé que 2 ans auparavant. Soudain, l'humanité voyait réellement quelque chose qu'aucun être humain n'avait jamais vu. Ce n'était pas seulement une prouesse technique, c'était presque un événement philosophique. Un territoire imaginaire présent dans les mythes et la littérature depuis des siècles, cessait brutalement d'être invisible. Il faut imaginer ce que cela représentait. Nous connaissions la Lune depuis toujours, mais de façon incomplète, un peu comme si un visage familier nous avait toujours refusé de se retourner. Et cette étrangeté a nourri l'imagination humaine pendant des siècles. Dès le XVIIe siècle, des auteurs imaginent des habitants de la Lune. Au XIXe siècle, cette idée devient presque respectable scientifiquement. L'astronome et écrivain Camille Flammarion aimait beaucoup spéculer sur la pluralité des mondes habités. Chez lui, l'habitabilité de la Lune n'est pas toujours présentée comme une certitude, mais comme une hypothèse plausible et poétique. D'autres imaginent des êtres adaptés à des conditions extrêmes, vivant peut-être dans des cavernes ou sur cette fameuse face invisible. Chez The First Man in the Moon, les Sélénites deviennent une civilisation entière souterraine. La face cachée de la Lune devenait ainsi une sorte de dernier blanc sur la carte du monde, un lieu parfait pour projeter toutes les formes d'imaginaire. Tout cela nous paraît aujourd'hui naïf, mais il faut reconnaître que la situation était unique. L'humanité vivait quotidiennement avec un monde dont elle ne voyait jamais l'autre côté. Et pourquoi, justement? Pourquoi la Lune nous présente-t-elle toujours le même visage? On dit souvent que la Lune tourne sur elle-même en même temps qu'elle tourne autour de la Terre. C'est vrai, mais cette phrase n'explique pas grand-chose. Pourquoi cette synchronisation? Pour le comprendre, il faut oublier un instant la Lune sphérique et imaginer autre chose. Un halter, 2 masses reliées par une tige. La masse la plus proche de la Terre est un peu plus attirée que l'autre. La gravitation est légèrement plus forte du côté proche que du côté lointain. Résultat, l'ensemble a naturellement tendance à s'aligner vers la Terre. Si l'on tourne un peu l'haltère, les forces gravitationnelles créent un couple qui tente à le remettre dans sa position d'équilibre, exactement comme un pendule revient à sa position verticale. La Lune réelle n'est évidemment pas un haltère, mais elle n'est pas non plus parfaitement homogène ni parfaitement rigide. Au cours des milliards d'années, les forces de marée exercées par la Terre ont progressivement ralenti sa rotation pour atteindre cet état stable, toujours la même face tournée vers nous. Mais cet équilibre n'est absolument pas parfait. La Lune hésite lentement, elle oscille un peu. Ces petites oscillations portent un nom magnifique, les librations. À cause de ces librations, nous ne voyons pas seulement exactement 50% de la surface lunaire, mais environ 59%. La Lune semble doucement nous montrer un peu plus que ce qu'elle voudrait cacher. Mais il y a une autre étrangeté, plus subtile encore. La Lune ne ressemble pas à une sphère. Bien sûr, intellectuellement, nous savons qu'elle est ronde. Les astronomes grecs le savaient déjà dans l'Antiquité. Aristote expliquait que lors des éclipses de Lune, l'ombre de la Terre était toujours circulaire, ce qui implique une Terre sphérique et une Lune sphérique. Et pourtant, quand nous regardons la pleine Lune, nous avons souvent l'impression d'un disque plat, une sorte d'assiette lumineuse suspendue dans le ciel. Ce n'est pas seulement une illusion naïve, c'est un véritable problème de physique de la lumière. Prenez une orange ou une balle blanche et éclairez-la avec une lampe. Le centre paraît lumineux, mais les bords s'assombrissent progressivement. Cet assombrissement nous indique immédiatement qu'il s'agit d'une sphère. Les physiciens décrivent cela avec ce qu'ils appellent la loi de Lambert. Johann Heinrich Lambert étudia au XVIIIe siècle la manière dont certaines surfaces diffusent la lumière. Un miroir renvoie la lumière dans une direction privilégiée. L'angle de réflexion est égal à l'angle d'incidence. Un réflecteur lambertien fait exactement l'inverse. Il reçoit la lumière et la redistribue uniformément dans toutes les directions. Une feuille de papier mat ou un mur blanc se comporte approximativement ainsi. Une sphère idéale, dite lambertienne, présente donc naturellement un dégradé lumineux. Le centre paraît plus clair et les bords plus sombres. Or, la pleine Lune ne se comporte pas ainsi. Elle reste étonnamment uniforme jusqu'au bord. Elle paraît presque plate. Et cela explique peut-être pourquoi, dans tant de civilisations, les artistes ont représenté la Lune comme un disque parfait plutôt qu'une boule éclairée. Les savants savaient pourtant qu'elle est sphérique, mais les artistes peignaient ce qu'ils voyaient. Pourquoi cette différence ? Parce que la surface lunaire est recouverte d'une poussière extrêmement fine, le régolithe lunaire. Cette poussière est composée de grains minuscules, de fragments de roches, de microcavités, d'aspérités à toutes les échelles. Lorsque le Soleil éclaire la pleine Lune, nous nous trouvons presque exactement dans l'axe de l'éclairage. Les minuscules ombres entre les grains disparaissent pratiquement. La lumière est alors envoyée préférentiellement vers sa source, vers nous. La Lune ne diffuse pas la lumière comme une sphère ordinaire. Elle diffuse la lumière d'une manière presque trompeuse. On peut ici entendre la voix même de Neil Armstrong lors de Apollo 11. Quelques secondes après son célèbre « One small step for a man ». C'est un petit pas pour un homme, mais un bond de géant pour l'humanité. Armstrong ne parle ni des étoiles, ni du paysage. Ce qui le frappe immédiatement, c'est la matière même du sol lunaire, une poussière extraordinairement fine qui colle aux bottes. Cette remarque presque triviale est en réalité profonde. Cette poussière ultra fine, anguleuse, jamais polie par l'eau ni par le vent comme sur la Terre, est probablement l'une des raisons essentielles pour laquelle la Lune réfléchit la lumière de manière si particulière. Au fond, notre cerveau reconnaît normalement les sphères grâce aux dégradés d'ombre. Or, la lumière supprime précisément ces indices visuels. Et comme si cela ne suffisait pas, notre perception de la Lune nous joue un autre tour célèbre. Lorsqu'elle est près de l'horizon, au lever ou au coucher, nous avons presque tous l'impression qu'elle devient gigantesque. Et pourtant, c'est faux. Si l'on mesure précisément son diamètre apparent, la Lune est en réalité légèrement plus petite lorsqu'elle est proche de l'horizon que lorsqu'elle est au zénith. La raison est simple. Lorsque la Lune est au-dessus de nos têtes, nous sommes plus proches d'elle d'environ un rayon terrestre, soit 6000 km. Cette différence est petite à l'échelle cosmique, mais parfaitement mesurable. Physiquement, la Lune apparaît donc un peu plus grande au zénith qu'à l'horizon. Et pourtant, notre impression subjective affirme exactement le contraire. Cette illusion lunaire fascine les philosophes et les savants depuis l'Antiquité. Léonard Euler lui consacre plusieurs pages admirables dans ses lettres à une princesse d'Allemagne. Il y explique déjà que l'illusion ne vient pas de l'œil lui-même, mais de notre interprétation psychologique de l'espace. Lorsque la Lune est haute dans le ciel, elle flotte dans un espace vide, sans comparaison possible. Mais près de l'horizon, elle apparaît derrière des arbres, des maisons, des montagnes, des paysages. Notre cerveau interprète alors l'horizon comme très lointain. Et puisque la Lune garde presque exactement le même diamètre apparent, tout en semblant plus éloignée, nous la percevons comme plus grande. C'est en quelque sorte une erreur de géométrie commise par notre système perceptif. Ainsi, la Lune accumule des paradoxes. Elle est sphérique, mais elle semble plate. Elle apparaît plus grande à l'horizon, alors qu'elle est physiquement un peu plus petite. Elle nous montre toujours le même visage, mais nous laisse entrevoir davantage grâce aux librations. Et elle fut pendant des millénaires un monde familier et pourtant incomplètement connu. Aujourd'hui encore, ces questions occupent les astrophysiciens. Les travaux du physicien Bruce Hapke ont profondément renouvelé notre compréhension de la réflexion lumineuse des surfaces planétaires. Pour décrire la Lune, il faut tenir compte de la poussière, de la rugosité microscopique, des ombres à toutes les échelles, parfois de géométrie proche des objets fractales. Car la surface lunaire est rugueuse depuis les grains de poussière jusqu'aux immenses cratères. Ainsi, un phénomène très ancien, cette impression étrange de disque plat que ressentent spontanément les humains, conduit aujourd'hui à des recherches sophistiquées mêlant optique, géométrie, physique statistique et astrophysique. La Lune reste donc fidèle à elle-même. Depuis toujours, elle nous montre le même visage et depuis toujours, ce visage semble refuser d'être tout à fait celui de nos sphères.
Alors vous avez écouté bien sûr quelques petits extraits de Dark Side of the Moon par les Pink Floyd. C'était un peu obligé bien sûr.
Petite histoire de science. Avec Étienne Gis. Le podcast de l'Académie des sciences.